Je vais tout de suite passer la parole au directeur des CMEA, parce que je pense que la transition est importante par rapport à ce que vous venez de dire sur l'égalité, sur la question de l'éducation telle qu'elle est posée, qu'elle continue de poser aujourd'hui au cœur des CMEA, dans leurs expériences. Les CMEA, c'est le Centre d'entraînement aux méthodes éducatives actives. Cher Jean-Luc, la parole est à toi.
Merci.
Pour 5 minutes aussi.
5 minutes aussi. Bon, mais tu m'arrêteras si je déborde. Je voulais revenir un peu sur le titre de la table ronde, parce que contrairement à ce que vous disiez, moi je ne le trouve pas terrible. je ne le trouve pas terrible parce que je trouve qu'il semblerait indiquer qu'on passerait dans l'évolution historique de l'éducation populaire, maintenant, il y a longtemps, à l'éducation artistique et culturelle aujourd'hui. En fait, c'est strictement l'inverse. L'éducation culturelle et artistique a toujours fait partie du projet politique de l'éducation populaire. Donc, vous avez évoqué, monsieur, la naissance de la Ligue. La Ligue a fêté ses 150 ans. Les CMEA fêtent leurs 80 ans l'an prochain. Notre projet, nos projets politiques ont toujours intégré la question des pratiques, l'éducation culturelle et artistique en leur sein. Donc, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas d'évolution. L'éducation populaire aujourd'hui, elle existe encore. Et puis, dans le même intitulé de la table ronde, ça se conclut en disant « avec l'ambition plus ancienne dont l'éducation populaire était originellement porteuse ». Je voudrais vous rassurer, on est toujours vivant et on a les mêmes ambitions. Ça, c'est un élément important parce que ça semblerait aussi indiquer qu'on soit un peu dépassé, has-been, un projet historique, mais plus adapté. Je pense que c'est exactement l'inverse qui se produit aujourd'hui. Tous les échanges, d'ailleurs, et les témoignages que vous portez sont révélateurs de ça. Parce que quand vous faites référence aux valeurs, vous faites référence à nos valeurs. Mais vous oubliez, dans les partenariats, de nous citer. Vous êtes prêt à échanger avec plein de gens, mais vous ne citez pas l'éduc-pop ou le monde associatif. Vous évoquez les partenariats portés par les institutions, mais vous évoquez pas la question du projet porté par le monde associatif. Donc on a encore du boulot. Mais comme on est militant et engagé, aujourd'hui, on va rester, bien sûr, droit debout pour faire vivre la définition que j'ai notée. C'est compliqué
de définir. Nous sommes à la même table, hein, c'est important.
Oui, bien sûr, c'est important, bien sûr. Je suis sensible au symbole, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Je voulais me rappeler, ou je me référais à une des définitions de l'éduc-pop, qui dit, c'est Morel qui dit ça. L'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui visent à la transformation sociale et politique travaillent à l'émancipation des individus et du peuple et augmentent leur puissance démocratique d'agir. Mais moi, je trouve que là, dans cette définition-là, on a ce qui caractérise, ce qui fait le fondement de nos interventions du quotidien. Et ça, quand vous évoquiez, monsieur, la question de la participation citoyenne, eh bien, c'est très à la mode en ce moment, c'est l'empowerment qu'ils appellent ça aujourd'hui. La question du pouvoir d'agir fait partie même de la définition de ce que nous faisons au quotidien dans l'ensemble des champs d'intervention que nous couvrons, dont celui des pratiques d'éducation culturelle et artistique. Alors, à partir de ça, je pense qu'effectivement, il y a 2-3 points que je peux mettre en évidence. Un, vous l'avez évoqué, je le redis, et cette table ronde en témoigne, nous ne sommes jamais seuls. Et la question du travail en partenariat, comme vous l'avez évoqué d'ailleurs sur Aurillac, monsieur le recteur également à d'autres endroits, ici à Avignon, bien sûr, j'y reviendrai un tout petit peu, on est quand même, c'est un, en témoigne. La question d'agir un projet en autonomie, bien sûr, est importante, mais c'est aussi d'agir un projet en écho, en partenariat, en adéquation avec un territoire et ses acteurs. Et donc, cette logique de partenariat, de la co-construction est importante. Nous sommes de bons acteurs. Nous sommes de bons partenaires. Nous pouvons être aussi de bons auteurs. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de porter un regard et de contribuer à la définition et à l'émergence des politiques locales, territoriales, voire même nationales, d'éducation culturelle et artistique. Cette association de l'éducation populaire dans la construction même des politiques aujourd'hui est un enjeu extrêmement important pour ne pas nous situer uniquement que sur le terrain du partenariat dans l'action, même si celui-ci est fondamental. Quand nous agissons, nous le faisons sur quoi ? Je vais reprendre des éléments qu'Olivier Py a un peu cités rapidement tout à l'heure. Mais d'abord pour dire que pour nous, il n'y a pas d'éducation sans culture. De ce point de vue-là, je pense qu'on est d'accord et que c'est aussi un des socles à partir duquel on se rencontre. Mais il faut, pour nous en tout cas, c'est passer à l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la question du discours, la formation descendante, c'est la question d'agir, agir par la pratique. Oser, exprimer, s'exprimer, dire, aller voir, oser ressentir, oser partager les émotions, et puis penser. Ça, c'est ce qui caractérise l'action que nous menons au quotidien. Alors, on le fait comment ? Vous évoquiez Aurillac, on pourrait évoquer le Festival d'Avignon, on se revoit demain pour parler du projet d'accueil des jeunes lycéens en Avignon. Les CMEA en Avignon, c'est 1500 participants qu'on accueille durant la durée du festival, dont 800 lycéens en Avignon, c'est vrai. Lycéens et apprentis. Eh bien, c'est l'accompagnement culturel. Des familles, des projets montés avec ATD Carmont, le Secours Pop, des MJC, des centres sociaux, qui envoient des jeunes, des familles, venir ici vivre avec nous, dans une logique d'accompagnement culturel, de vivre un événement. Et donc de provoquer la rencontre, de faire vivre cette rencontre. Oser aller voir, se dire qu'on est légitime à aller voir un spectacle, même si a priori on pense qu'il n'est pas fait pour nous et qu'on ne va rien y comprendre. Ça, c'est le travail que nous faisons ici au quotidien. On le fait à Avignon, avec un partenariat étroit, avec la ville d'Avignon et le Festival d'Avignon. Puisque les SMR en Avignon, bien sûr, portent ces 150 militants qui portent le projet durant tout le festival, dans une structure qui s'appelle Centre de Jeunes et de Séjour. C'est une association composée des SMEA, de la ville d'Avignon et du Festival d'Avignon. Ça, c'est aussi un élément qui caractérise le partenariat et ça continue à faire vivre le projet qui nous a été confié par Jean Villard. On le fait à Aurillac, théâtre de rue, on le fait à La Rochelle, on le fait à Bourges, à Charleville-Mézières. Mais aussi, on fait aussi des événements autour du numérique, du cinéma, de la question des médias, du rapport critique, l'éducation citoyenne, à Évreux, avec un festival de films d'éducation extrêmement important. Mais c'est aussi une action en Ile-de-France, dans les lycées, pour animer des clubs théâtre, faisant en sorte que 2 à 3 ans après notre participation, les jeunes portent eux-mêmes le projet. Donc avec une visée d'émancipation, d'autonomie des jeunes, pas pour installer les SMR dans les lycées en Ile-de-France, mais pour faire que l'intervention qu'on y conduit, elle aboutisse à l'autonomie des jeunes. Et puis on le fait en Basse-Normandie, avec une programmation qui s'appelle Carte à tout. On fait venir des troupes dans les établissements scolaires pour accompagner, travailler et encourager à aller voir le spectacle. Donc c'est un peu ça la traduction concrète de notre projet politique. Mais ce que je voulais dire au tout début, c'est quand même, il me semble que sur l'ensemble des témoignages, on voit bien qu'on est quand même tourné vers l'éducation culturelle et artistique et qu'on tourne beaucoup autour du rapport aux institutions. Or, ce ne sont pas que des projets d'institutions. Elles sont essentielles, elles sont fondamentales. Nous travaillons en lien avec elles, avec les musées, mais elles ne peuvent rien faire tout seules. Il y a un travail de reconnaissance aujourd'hui et d'association de l'éducation populaire que je représente mal, mais modestement aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on soit vraiment au cœur des processus politiques d'élaboration puis de mise en œuvre des politiques publiques.
Merci beaucoup. Encore une fois, vous avez parfaitement raison de souligner que c'est le rôle de tous et des différents partenaires. Effectivement, il faut qu'on soit tous concernés par cela. Je vous assure que ce qui est le plus difficile à construire, ce n'est pas effectivement les partenariats, les conventions, c'est vraiment de les faire vivre avec comme projet de construire quelque chose qui relève de la responsabilité des institutions. C'est néanmoins le choix, le partage d'une culture que l'on souhaite commune à un moment ou à un autre. Et je peux vous dire que dès l'instant où on commence à se dire que c'est ça aussi le projet que nous avons à faire, là, on commence à discuter, et c'est là où les choses se tendent quelquefois, entre les institutions, entre les partenaires, et au bout du compte, où c'est bien les relations et la remédiation que nous arrivons à faire, grâce à vous, qui permet de réussir quelque chose pour notre jeunesse, donc pour nous tous. Éléonore, merci d'être là. Vous portez un projet extraordinaire depuis quelques années, qui est celui de le prix de l'audace, où justement les jeunes sont concernés. Le dialogue entre les institutions aussi. Je vous laisse 5 minutes pour en parler.
Merci Emmanuel. Donc je m'appelle Éléonore de la Charrière et je travaille dans une fondation qui s'appelle la Fondation Culture et Diversité, qui est une fondation d'entreprise, donc un acteur privé hors institution également. Nous avons été créés en 2006 avec comme mission unique et très précise l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Et donc mes interlocuteurs au quotidien, au-delà des jeunes que nous accompagnons, ce sont les institutions, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la ville. Voilà, donc je suis entourée de mes partenaires. Ce que je peux peut-être vous dire à travers le prix de l'audace dont parlait Emmanuel, c'est comment est-ce qu'une fondation privée, un des exemples d'intervention d'une fondation privée sur ce domaine de l'éducation culturelle et artistique, qu'est-ce que ça peut apporter comme regard extérieur et comment est-ce que nous avons vu un petit peu évoluer les institutions et l'éducation culturelle et artistique. La Fondation Culture et Diversité est une fondation opérationnelle, ça veut dire qu'on met en place des programmes très terrain. Donc on a évidemment eu un premier objectif de travailler avec des jeunes, pour les jeunes, et en particulier les jeunes des milieux modestes. Mais on essaye de construire des programmes à plusieurs étages, avec une fusée à plusieurs étages, et qu'au-delà de notre travail de terrain, on va avoir un deuxième étage d'accompagnement des établissements scolaires et des institutions culturelles, puisque c'est toujours dans le cadre de l'éducation nationale, ce qu'on appelle maintenant l'éducation culturelle et artistique dans son volet éducation nationale, donc en lien avec des établissements scolaires, que nous intervenons. Et donc nous avons beaucoup travaillé sur la création, la co-création de programmes entre institutions culturelles et établissements scolaires, sur la répartition des tâches, sur l'articulation entre le scolaire, le périscolaire, le hors scolaire, sur l'évaluation, sur l'accompagnement, sur la durée. Donc il y avait vraiment tout un travail d'apport méthodologique, puis de financement, puis d'aide à l'opérationnalité des programmes, mais ça se fait vraiment sur toute cette durée-là. On travaille aussi beaucoup avec les institutions sur un troisième étage, en lien direct, soit avec les administrations déconcentrées, les rectorats, les DRAC, mais aussi directement avec la DGESCO, avec le bureau qui s'occupe de l'éducation culturelle et artistique, et avec le bureau qui s'occupe des dispositifs d'éducation prioritaire, sur la création, par exemple, d'outils pédagogiques. Alors, on travaille en ce moment sur des outils pédagogiques sur le SLAM, qui est une discipline qui est moins travaillée jusqu'à maintenant par l'éducation nationale, même si il existe beaucoup de projets de SLAM dans les établissements scolaires. Et donc, on va travailler sur la construction d'outils pédagogiques qui seront ensuite mis à disposition au sein de l'éducation nationale pour que d'autres professeurs accompagnés de slameurs puissent se saisir de ces outils-là au-delà du programme précis que nous développons pour un petit nombre d'élèves. Voilà, donc il y a vraiment cette volonté, à partir de projets opérationnels restreints, disons, on a cette capacité en tant que fondation de ne pas avoir à toucher tout le monde, de ne pas s'occuper de ce systématisme, quand même de travailler avec l'institution pour réussir à accompagner le partage de méthodologies et le développement d'outils. C'est dans ces conditions-là qu'il y a 5 ans, on a commencé à réfléchir à un prix qui s'appelle le prix de l'audace artistique et culturelle, parce que nous avions l'impression que nous n'étions qu'un tout petit acteur parmi beaucoup d'autres, qu'il y avait énormément, énormément de projets sur le terrain, et qu'on est toujours dans cette contradiction d'un investissement extrêmement fort des acteurs culturels, des artistes, je pense qu'il ne faut pas les oublier, des professeurs aussi, mais que c'est peu lisible, peu visible même, l'éducation culturelle et artistique. Et donc, nous avons travaillé avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, on est avant la loi de refondation de l'école, à travailler tous ensemble pour que des territoires nous remontent les meilleurs projets d'éducation culturelle et artistique. Et donc, chacun des rectorats et des DRAC, en lien, donc concrètement, ça veut dire les délégués académiques à l'action culturelle du côté rectorat et les conseillers éducation artistique et culturelle du côté des DRAC, remontent les trois meilleurs projets, les trois projets les plus audacieux, en tout cas, de leur territoire. Et puis ensuite, il y a un secrétariat qui sélectionne 15 projets et puis un jury d'artistes, mais aussi de représentants des institutions qui vont sélectionner les trois projets lauréats avec une remise à l'Élysée par le président de la République. Et l'objectif, c'était vraiment, alors évidemment, d'avoir une parole politique du président de la République sur l'éducation culturelle et artistique, mais aussi et avant tout de valoriser vraiment la multitude de projets qui existent et un peu de féliciter ces acteurs de terrain qui souvent mettent en place ces programmes et ces projets avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de difficultés, voilà, et donc de permettre de les accompagner un peu là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, peut-être avec un peu de recul de 10 ans d'éducation culturelle et artistique, c'est d'abord que ce mot d'éducation culturelle et artistique, à mon avis, il n'existait pas institutionnellement dans les textes il y a 10 ans, qu'on parlait de démocratisation culturelle, etc. Mais voilà, et que vraiment, la loi de refondation de l'école a inscrit, et je pense très durablement, voilà, cette problématique-là, que le parcours d'éducation culturelle et artistique, que le référentiel d'éducation culturelle et artistique a vraiment ancré ces questions d'accès à la culture, qu'en parallèle, aujourd'hui, les institutions culturelles ne se sentent plus étrangères à ces questions-là. Je pense que les questions de citoyenneté, de rupture, de fracture qui effectivement existent, voilà, aujourd'hui, tout le monde se sent responsable de ça. Qu'il y a 10 ans, quand nous intervenons en apport de méthodologie auprès d'institutions culturelles et auprès d'établissements scolaires, on nous demandait ça et qu'aujourd'hui, on ne nous demande plus. que moi j'ai l'impression que la Fondation Culture et Diversité n'a plus légitimité à expliquer à une institution culturelle et à un professeur comment est-ce qu'on co-construit un programme, comment est-ce que ça va s'articuler, quels sont les objectifs, quels sont les critères d'évaluation. Et que ce sont vraiment aujourd'hui des connaissances extrêmement partagées, que c'est dans le cahier des charges hein, des institutions culturelles de travailler sur ces questions-là, et que donc il y a eu un vrai changement en 10 ans là-dessus. Pour autant, j'ai vu par ailleurs, et on le voit tous, hein, un public et une jeunesse de plus en plus réfractaires à ces questions-là, que quand on a commencé à travailler, si on faisait une proposition de qualité dans le respect, sur la durée, avec ce qu'on appelait des passeurs à ces jeunes, ils venaient. Alors ils venaient à l'artiste, mais ils venaient même à l'institution culturelle. Aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment un refus idéologique de ces propositions-là, et je rejoins la Frédéric sur la nécessité de réinventer aussi les propositions que nous faisons aux jeunes de nos quartiers, parce que voilà, si aujourd'hui je pense que tout le monde se préoccupe de ces questions-là, qu'elles sont institutionnalisées, il faut voilà réussir à ramener le public ou à l'amener différemment en tout cas vers les institutions. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup de cette présentation. Et merci aussi pour les propositions qu'il y a dans les prix. Moi, je garde en souvenir vraiment, parce que ça m'a marqué, le clip des jeunes de Nouvelle-Calédonie l'an dernier, qui est réalisé par des jeunes qui ont 13 ans, sur les violences qu'ils ressentent dans l'école, et surtout qui, à 13 ans, arrivent à nous décliner avec un talent inouï des paroles, des textes et de la musique, et surtout un clip vidéo, que déjà à 13 ans, ils aimeraient bien recommencer leur vie à zéro, à 13 ans. Quand l'art et la culture nous permettent de dire ça, il ne faut pas en faire un élément de consolation, mais un élément de lecture important, parce que sans ce langage-là, on ne pourrait pas le comprendre. Donc au-delà des productions, ces productions, je pense qu'il faut les regarder, s'en saisir, en faire quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez réagir peut-être tout de suite, parce qu'on parle des lycéens. Moi, j'ai voulu qu'à chaque table ronde, il y ait un lycéen. Lorenzo est à côté de moi, je vais peut-être lui donner la parole, parce qu'on parle beaucoup d'eux, et peut-être qu'il faut qu'il réagisse aussi.
Eh bien, merci beaucoup de me donner la parole, c'est... Donc bonjour à tous, je m'appelle Lorenzo Quadrado, donc je suis lycéen et bachelier depuis maintenant 2 jours. Merci beaucoup. Donc je suis très content d'être ici présent avec vous, entouré de nombreuses personnalités qui sont toutes très intéressantes et qui étaient également très intéressantes dans la première table ronde. Donc voilà, donc moi je vais tenter comme mon camarade d'apporter un témoignage en tant que lycéen, parce que je vais sûrement avoir un peu de mal à vous parler de ce qui se faisait anciennement, étant donné que mon passage au lycée a été plus furtif que ce que je ne pensais. Mais voilà, donc tout à l'heure vous parliez de l'évolution, donc de 2 à 39%, donc des élèves touchés par un projet artistique. Donc moi, durant mes nombreuses, pour l'instant, années de scolarité, j'ai pu assister sur le terrain donc à cette évolution. Au fil des années, j'ai vu le début de l'enseignement artistique et culturel, donc qui se cantonnait à quelque chose de très bien quand même, mais qui était donc par exemple, l'enseignement de la musique qui était obligatoire et qui l'est toujours au collège, l'art plastique. J'ai eu l'épreuve d'histoire des arts pour le brevet des collèges, donc qui venait d'être mise en place, donc qui a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté également. Et donc j'ai pu me rendre compte, de cette évolution petit à petit, au fil des années, participer. Les sorties scolaires existent depuis de nombreuses années, mais les sorties culturelles et artistiques sont différentes. Et donc, j'ai pu rencontrer des professeurs de plus en plus intéressants qui proposaient à leurs élèves donc des sorties au théâtre, au cinéma et d'autres lieux aussi intéressants les uns que les autres. Et donc voilà. Donc, j'ai également vu, en arrivant au collège, des classes qui permettait donc aux élèves intéressés de se baser sur, de se cibler sur vraiment un aspect culturel ou artistique. Donc par exemple une classe cinéma, il existe à l'heure d'aujourd'hui des classes théâtre, et vraiment de nombreuses choses qui permettent une ouverture d'esprit de plus en plus appuyée donc, chez les lycéens, les collégiens et tous les autres élèves qui se préparent donc, à une vie citoyenne et qui préparent leur, leur vie personnelle de citoyen. Donc moi, pour mon aspect personnel, j'ai pu remarquer que, parce que la plupart de mes partenaires, comme vous devez le penser également, sont lycéens. Donc, même si on s'appuie sur de nombreuses personnalités d'établissement, personnalités également au sein de, pour ma part, du conseil académique de la vie lycéenne, on est beaucoup entre nous et donc on nous apprend. Pour moi, c'est un enseignement qu'on reçoit et qu'on donne par la même occasion, parce qu'en étant lycéen engagé, on, quelque part, on nous oblige à mettre en place des projets. Donc qu'ils soient encore une fois culturels ou artistiques. Donc pour moi, ça fait partie intégrante de l'enseignement artistique et culturel. Et donc on nous apprend, donc on nous enseigne pour ce point-là, donc à mettre en place et à dispenser un enseignement. Et donc pour nous, c'est, ça nous apporte à nous, mais ça apporte aussi à, nous, à nos camarades, parce que l'entendre d'un, entendre un enseignement d'un père, c'est différent que de l'entendre d'un professeur. Parce qu'on voit qu'il y a souvent beaucoup de réticences, parce que tout à l'heure, on parlait aussi de la diversité, il me semble. Et donc, pour moi, pour toucher un maximum d'élèves, la participation des élèves est primordiale. Parce que, voilà.
Merci beaucoup. Alors, une autre fondation, la fondation SNCF. Marianne, la parole est à vous.
Oui, bonjour. Deuxième fondation, en effet, qui finalement montre que la présence des entreprises qui pourraient sembler incongrues ne l'est pas, et merci d'en avoir invité deux, donc. Et au fond, ça illustre bien la réalité aujourd'hui des partenariats. Je rejoins monsieur qui parlait du monde associatif, qui n'a pas été beaucoup cité, en effet, le monde de l'entreprise non plus. Pourtant, ce sont deux acteurs, me semble-t-il, très, très, très importants autour des institutions culturelles et des deux ministères aujourd'hui présents. Et c'est important de le dire parce que je crois que Najat Vallaud-Belkacem parle souvent de cette communauté d'acteurs. Hein. Je pense qu'elle y croit très, très fort et je pense vraiment que toutes ces différentes organisations font partie de cette communauté d'acteurs et le monde de l'entreprise aussi. Donc voilà, on se sent tout à fait légitime, d'autant plus légitime d'ailleurs que c'est un réel accompagnement que nous avons auprès des porteurs de projets, beaucoup plus que d'être exclusivement des financeurs. Tout ça, c'est vrai parce qu'il faut de l'argent, mais c'est vraiment dans une autre démarche qu'on essaye de soutenir les porteurs de projets, les institutions culturelles, les associations, etc., en termes de soutien autre que... On va au-delà du soutien financier. Pour certaines entreprises comme la SNCF, par exemple, on a développé le mécénat de compétences qui permet aux salariés, sur leur temps de travail, de donner du temps à une mission d'intérêt général. Voilà, donc ça permet de développer l'engagement aussi quand on travaille. Ça donne cette possibilité qui, me semble-t-il, est très importante. Alors, la Fondation SNCF, qui existe depuis 20 ans, elle est justement, c'est peut-être pas un hasard cette invitation, sur deux grands axes que sont l'éducation et la culture. Donc, clairement, l'éducation, il n'y a pas de culture sans éducation et d'éducation sans culture. C'est pourquoi ce sont nos deux axes principaux. Et ça me semble important de dire aussi que notre raison d'être, notre credo, c'est pour mieux vivre ensemble. Alors, on en parle beaucoup, simplement, on le pratique clairement à la SNCF depuis très, très longtemps, puisqu'on est présent dans tous les territoires, on traverse tous les territoires, on transporte des millions de personnes chaque jour. Et donc, les différences, l'altérité, elle est présente, évidemment, dans tous ces transports. Et c'est normal que la Fondation soit le prolongement, finalement, de cette réalité. Et donc, comment on porte ce mieux vivre ensemble? Nous, on a une vraie conviction à la Fondation, c'est qu'il passe par le faire ensemble. Alors, on en parle aussi maintenant, mais on est vraiment dans des soutiens, des projets où le faire ensemble est au cœur de la démarche. Voilà. On ne soutient pratiquement plus de projets où il n'y a pas ce fabriquer du commun ensemble. Parce que c'est vrai qu'on peut aller voir un spectacle ou se trouver avec des gens différents dans une salle, mais tant qu'on n'a pas fabriqué quelque chose ensemble, on n'a pas changé le regard qu'on a sur l'autre, hein, et sur la différence. Donc on croit très très fort à ça, et c'est pourquoi on soutient essentiellement ce type de projet. Donc voilà, ce n'est pas une incantation, on a parlé de diversité, de mixité, on essaie de faire que des publics différents, les jeunes, les seniors, les personnes valides, les personnes handicapées, les filles, les garçons, les personnes de cultures différentes, puissent ensemble faire un projet. On essaie d'impulser aussi une démarche interassociative, c'est pas simple, hein. Les associations sont pas toujours enclines à travailler ensemble, donc là aussi, je pense que le rôle d'une fondation aussi, c'est, enfin, la position d'une fondation qui existe depuis un certain temps comme la nôtre, c'est d'avoir un recul finalement, hein, sur ce paysage associatif, puisqu'on soutient beaucoup beaucoup de projets, on rencontre beaucoup de gens, puisqu'on est très sollicité, puisque c'est vrai qu'on donne de l'argent, mais on a comme ça ce regard qui fait qu'on peut voir un certain nombre de choses, hein, que peut-être d'autres ne peuvent pas voir. On a aussi une vision, la vision d'une entreprise, c'est vrai, mais enfin aujourd'hui les entreprises, elles sont également, vous le savez, responsables et citoyennes, donc voilà, on peut leur faire confiance, et c'est vrai que le contact avec les artistes, avec les institutions culturelles, c'est bien sûr le respect total du projet, mais c'est également quand même un accompagnement, un échange. Je le vois d'ailleurs très clairement avec le Festival d'Avignon lui-même, d'ailleurs, qui chaque année aime beaucoup cette rencontre, ces quelques heures qu'on passe ensemble pour avoir un échange, et on sort vraiment réciproquement enrichi de ce qu'on peut bâtir ensemble. Alors nous sommes partenaires de la web radio dont on a parlé depuis quelques années, de toutes les actions sociales qui sont menées autour de la Fabrica. C'est important que la Fabrica, quand elle est sortie de terre, puisse proposer aux habitants du quartier, puisqu'on le sait, ils sont en difficulté, voilà, une articulation avec ce bâtiment. Et puis, l'année dernière, la République de Platon, hein, qui a eu un succès fantastique, eh bien, c'est un projet, voilà, que Paul Rondin et Olivier Pie sont venus me proposer il y a 2 ans, et voilà, c'était du vivre ensemble, c'était du jeune senior, c'était de l'amateur professionnel, voilà, il y avait plein de choses, c'était des metteurs en scène avec, voilà, avec des gens qui avaient juste envie de pouvoir lire des beaux textes sur la démocratie. Donc ça a été un grand succès, et puis cette année, de nouveau, le ciel, la nuit, a commencé hier, je crois, très intéressant, et ce matin sur France Inter, j'entendais un spectateur qui disait que, voilà, on était revenu à un théâtre exigeant et populaire. Alors on parlait d'éducation populaire, enfin revenu, je ne sais pas, en tout cas lui était heureux de cette initiative gratuite. Je vous invite d'ailleurs tous les jours à 12h à venir au Jardin Sécano, voilà, participer, écouter ces amateurs et ces professionnels qui ont bâti ensemble, voilà, des textes, alors des collégiens, des professionnels avec la Piccola Familia. Donc ce sont des beaux projets. Donc nous on fait confiance, on est en effet complémentaire, hein, de la Fondation Culture et Diversité qui est essentiellement opérateur, je crois. On peut l'être parfois, mais enfin, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais on est essentiellement en soutien des acteurs, des associations qui font des choses. Hein, voilà. Donc on les identifie, on les cherche. C'est ça aussi le mécénat, hein, c'est d'aller chercher les pépites, hein, et peut-être celles parfois qui ne sont pas soutenues, qui ont du mal à trouver des financements. Voilà pourquoi on est très très attentif aux besoins, et voilà pourquoi aussi nous avons d'ailleurs un réseau régional partout en France, hein, d'une vingtaine de correspondants qui, eux, identifient évidemment de façon très proche sur les territoires quels sont les besoins et les associations à soutenir. Ce n'est évidemment pas à Paris que ça se passe. Un dernier point peut-être, j'ai parlé d'Avignon, j'aimerais parler aussi des concerts de poche. Vous connaissez certainement cette très très belle initiative, qui est, je le dis parce qu'elle est soutenue à la fois par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture, et bien entendu par des partenaires dont la Fondation SNCF, qui fait un travail remarquable pour amener justement la musique occidentale, savante, comme on dit, mais enfin, voilà, pour l'amener au plus loin des territoires. Alors là, on parle souvent des quartiers, mais parlons parfois des zones rurales, elles sont nombreuses en France, campagne ou montagne. Et ce qui est intéressant dans cette association, c'est que, voilà, elle ne vient pas plaquer la musique en arrivant. Voilà, ce sont des musiciens de très grande qualité qui se déplacent, bien entendu, il ne s'agit pas de faire de la musique au rabais, mais on prépare. Voilà, il y a 3, 4, 5 mois d'ateliers qui sont proposés aux habitants pour accueillir au mieux le concert qui va leur être proposé. Ça, c'est important pour pas qu'ils, voilà, qu'ils s'autorisent, on en a beaucoup parlé, à casser ce plafond de verre et à profiter pleinement, hein, du concert qu'on leur offre.
Voilà. Merci beaucoup. On va rester sur cette lignée musicale en donnant la parole à Juliette Mande. C'est vrai que Vous êtes présente au titre de la SACEM aujourd'hui, où vous représentez les auteurs également. On se pose toujours beaucoup de questions dans l'éducation parce que là aussi, nos lycéens sont quelquefois des consommateurs, quelquefois pas forcément dans le créneau que vous attendez. Quel est le discours de la SACEM là-dessus ?
Écoutez, merci de m'avoir invité pour représenter effectivement aussi un partenaire indispensable, les artistes et les professionnels de la culture. Donc la SACEM, c'est la société qui gère les droits des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Elle est connue pour ses actions de collecte et de répartition, mais depuis plus de 50 ans, elle développe aussi des programmes d'aide et d'action de soutien à la vie musicale. L'engagement est ancien de la SACEM. Depuis 10 ans, elle a soutenu près de 500 projets en partenariat avec finalement l'ensemble des partenaires qu'on a pu voir, des collectivités, à l'éducation nationale, à la culture, associations musicales, associations d'éducation populaire. Comme partenaires, par exemple, nous avons les Jeunesses musicales de France, Franco-Éduc, l'association des orchestres à l'école, la Fédération nationale des chorales scolaires. Et donc, à travers ses programmes d'aide et son pôle dédié à l'éducation artistique et culturelle, la SACEM soutient la création, la production, la diffusion de spectacles pour le jeune public, mais permet aussi d'attribuer des aides à la création musicale en milieu scolaire. En 2015, 1 million d'euros étaient dédiés aux actions d'éducation artistique et culturelle, et on espère pouvoir continuer et aller encore plus aider encore plus justement l'éducation artistique grâce au nouveau critère qui a été voté dans le projet de loi création artistique et culturelle et à la rémunération pour copie privée. Cette année, pour cette année scolaire qui vient de se terminer, la SACEM a développé un nouveau dispositif qui s'appelle la Fabrique à chansons. C'est la première édition, c'est-à-dire que dans 100 écoles de France, 2500 élèves de CM1 et CM2 ont pu rencontrer des auteurs, compositeurs qui ont constitué un binôme avec des enseignants et composé une chanson. On a tenu à vraiment ce que les artistes soient dans le dispositif, mais à ce que tous les maillons de la chaîne de la création puissent être présentés aux enfants. Il y a eu donc 5 rencontres de 2 heures, une rencontre avec l'auteur pour parler justement de son métier, sensibiliser aux droits d'auteur, à la façon d'appréhender la culture par les jeunes. Il y a ensuite l'écriture du texte de la chanson, la composition, ensuite la composition musicale, et ensuite des répétitions et une restitution dans des conditions d'artiste. Ce qu'on a pu tirer comme constat de cette première édition, qui reprendra l'année prochaine, c'est que s'est développée grâce à la musique une véritable fabrique citoyenne. D'une part, à travers les thèmes qui ont été retenus et choisis par les enfants eux-mêmes, avec les artistes et les enseignants. Il y a eu beaucoup de thèmes, effectivement, sur la liberté, l'égalité, fraternité, laïcité, vivre ensemble, citoyen en 2016. La chanson qui est sortie gagnante, parce qu'il y a eu une chaîne YouTube et une playlist sur France Bleu avec des votes, s'appelle « Chanteur engagé » et elle vient de l'Académie de Nantes. Ce qu'on a tiré comme constat également, c'est les synergies qui ont été créées sur les territoires, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le dispositif s'est vraiment adapté à l'échelon territorial. Les acteurs institutionnels et culturels présents sur le territoire ont travaillé ensemble, de l'école à la salle de spectacle ou la salle du centre de jeunesse, la municipalité, tout le monde s'est réuni pour pouvoir organiser une restitution avec les moyens du territoire. Les habitants aussi se sont investis, et les parents. Dans certaines villes, on a vu des parents préparer les cartons d'invitation, tout le monde a distribué dans les boîtes aux lettres, les costumes ont été faits avec les grands-parents. Enfin, il s'est vraiment créé un projet de territoire. Et cette question du projet de territoire, c'est effectivement ce qui nous rassemble aujourd'hui, de l'éducation populaire à l'éducation artistique et culturelle. Alors effectivement, moi aussi, le titre m'avait dans un premier temps interpellée, parce qu'évidemment, l'éducation populaire est un formidable projet de société. Donc, on le poursuit. Mais évidemment, l'État inscrit son action en toute cohérence aussi sur la problématique des rythmes scolaires et cette dimension sur tous les temps de vie, cette dimension partenariale où il ne faut absolument pas effacer l'éducation populaire, et nous, on travaille énormément avec, est fondamentale. Cette question de la cohérence de nos actions est vraiment au cœur d'une réflexion que la SACEM mène actuellement dans ses soutiens. Parce qu'effectivement, pour une société comme la nôtre, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est un simple financeur pour venir compenser, évidemment, des manquements d'autres partenaires ? Est-ce qu'on est un opérateur direct et unique ? Ou est-ce qu'alors on se pose en partenaire structurant ? Donc on est en train de réfléchir à cette question pour pouvoir faire en sorte qu'à un moment où on développe des projets, cela puisse vivre encore et non pas se retirer, mais pouvoir en développer autre part. Donc cette question de l'éducation artistique et culturelle comme source d'innovation sociale, aujourd'hui nous y réfléchissons aussi à travers les pratiques musicales collectives, qu'elles soient chorales ou orchestrales. Je voulais reprendre les propos justement d'un grand projet de société par la musique qui était porté déjà en 1953, il y a plus de 60 ans, par Georges Duhamel. Lors d'une conférence internationale sur le rôle de la musique dans l'éducation de la jeunesse, à l'UNESCO, il disait « Je fais des vœux pour que l'enseignement de la musique soit obligatoire et qu'il tienne ainsi une place dans le classement définitif des apprentis citoyens. La musique ne saurait en aucun cas être considérée comme une matière à option, c'est-à-dire une matière dont l'étude est facultative. » C'est l'un des puissants moteurs dont disposent les pédagogues pour la formation d'une âme. Et c'est effectivement le projet qu'on porte pour la musique avec tous les artistes et les professionnels de la musique dans leur ensemble, je le tiens à le dire aussi avec l'association Tous pour la musique. Aujourd'hui, on est en train de discuter avec tous les partenaires qui développent des initiatives d'orchestre dans les écoles ou sur les territoires. Il y en a énormément des initiatives. Il y a l'association Orchestre à l'école, qui a développé 1140 orchestres actuellement dans les écoles. À chaque fois, ils s'adaptent au territoire. C'est une mise en réseau des acteurs, des partenaires, une adaptation au contexte territorial. Il y a des ensembles musicaux qui développent aussi en propre des classes orchestres, comme les talents lyriques, le poème harmonique. Et il y a aussi de nombreuses pratiques chorales et orchestrales hors temps scolaire. El Sistema France, Demos, les petites mains symphoniques, concerts de poche que vous citiez, et énormément d'associations musicales et de fédérations d'éducation populaire qui développent aussi des initiatives qui accompagnent les pratiques amateurs et qui sont autant de scènes culturelles de proximité fondamentales. Pourtant, en dépit de toute cette énergie, des inégalités existent encore sur les territoires. Donc nous, avec la SACEM et les acteurs de la musique, on voudrait intégrer l'ensemble des acteurs, des passeurs de la transformation sociale pour mettre en place un véritable droit à la formation musicale. Je parle d'un droit à la formation musicale parce que je voulais vous parler d'une initiative qui a eu lieu en Suisse, puisque le droit à la formation musicale a été inscrit dans la Constitution en 2015. Tout est parti d'une initiative du Conseil national de la musique, qui est un groupement qui réunit à la fois les professionnels, les acteurs de l'éducation artistique et culturelle, les amateurs et les chercheurs. Ils ont initié une procédure d'initiative populaire. Ils ont récolté 100 000 signatures de gens qui considéraient que les enfants n'avaient pas accès à une éducation musicale. Et par ce biais, ils ont pu saisir les parlementaires de cette réforme constitutionnelle. Et la réforme a été votée à 72% des citoyens. Donc aujourd'hui, la Suisse a inscrit un droit à la formation musicale. Et qu'est-ce que ce droit ? Ça renforce l'apprentissage de la musique dès l'école élémentaire et ça unifie au niveau fédéral la qualité de la formation. Le gouvernement a tout récemment donc augmenté le budget dédié à la musique, augmenté le budget dédié à la formation, puisqu'effectivement ça va de soi, et a développé un programme de soutien aux jeunes talents destiné à repérer dans les écoles les talents et pour faire le pont avec les conservatoires, puisque bien entendu il faut associer l'ensemble des partenaires. Donc cette démarche collective, c'est celle qu'on porte, c'est aussi celle qu'a porté la Grande-Bretagne en 2012 en développant un grand plan d'éducation musicale. En permettant également le dialogue entre tous, il y a eu 123 hubs d'éducation musicale qui se sont développés sur le territoire pour coordonner l'offre. Il y a eu aussi des espaces de répétition dans les zones urbaines et rurales qui ont été ouverts, en lien avec les associations d'éducation populaire, et il y a des partenariats avec l'audiovisuel public, la BBC Music, pour valoriser la musique aussi par ce vecteur qu'est l'audiovisuel, hein, puisqu'effectivement, on peut se parler à travers différents vecteurs culturels. C'est le Conseil de l'éducation musicale, avec l'association UK Music, qui réunit les professionnels, et le gouvernement, qui ont fait tout ça ensemble. Alors évidemment, il y a une question de moyens financiers, il y a une question de moyens humains, et dans cette perspective, si on veut porter un beau projet, tous ensemble, il faut évidemment valoriser les bonnes pratiques, et elles sont vraiment formidables de tous les acteurs dans leur diversité, et organiser une grande concertation permettant de mettre en regard toutes ces initiatives et de créer les synergies nécessaires. Voilà, c'est l'objet donc, du coup, de, de notre réflexion actuellement avec les auteurs, compositeurs et éditeurs et avec l'ensemble de la filière. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Juliette. Et merci de vous occuper des droits de Philippe Châtel qui nous disait il y a quelques années « Je te réponds ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen, tu veux quelqu'un qui te comprenne, je te comprends, j'essaie, au moins. » Je ne l'ai pas chanté. Hein. Votre ancien président ou vice-président, Alain Chamfort, a aussi une autre chanson. Hein. Les spécialistes ont raison surtout de se spécialiser. On va donner la parole à un spécialiste qui va faire la même chose que Jean-Louis Fabiani tout à l'heure. Il a la consigne de terminer cette table ronde en 5 minutes, lui aussi, pour nous expliquer, cher Alain Kerland, ses retours que vous avez, ses impressions que vous en avez.
Oui, mais moi qui ai l'habitude de parler lentement, vous me mettez un handicap de 3 minutes d'emblée. Donc je vais essayer d'accélérer mon propos. Alors, la première chose que je voulais dire, ce n'est pas simplement une façon de se dérober, hein, mais c'est qu'une synthèse est un art à peu près impossible. En gros, vous avez deux solutions. Ou bien vous ne préparez rien et vous vous débrouillez avec ce qu'il y a, voilà. Ou bien vous l'avez préparé un petit peu d'avance et vous faites un exercice d'improvisation, d'une certaine manière, comme on peut le faire en jazz sur les quelques notes, les bases que vous êtes données. La seule personne que j'ai vu faire ça vraiment bien, c'était un slammer. Mais je n'ai pas son talent, hein, donc je ne vais pas m'engager sur ce terrain. J'avais pu constater que, par contre, sa synthèse était très préparée. C'est-à-dire qu'un slammer, c'est quelqu'un qui a sa partition, parce qu'il a étudié le programme au moment où on lui demande de faire la synthèse du colloque. Hein, et il a pris des notes très précises et il ménage des places pour que certaines résonances, échos, rimes, correspondances puissent naître. Alors, j'y arriverai pas, hein, donc ce n'est pas la peine que je m'engage sur ce terrain-là, mais j'avais quand même plutôt décidé de prendre une ligne directrice qui était la question, justement, de cette table ronde, de l'éducation populaire à l'éducation artistique et culturelle. Et là, d'emblée, je sens qu'on va me tomber dessus, hein, parce qu'il y a eu un débat autour de cette question.
C'était fait pour. Hein.
C'est fait pour, hein, bien sûr. Alors, pour ma part, déjà, je ferai remonter l'éducation populaire au sens politique, même jusqu'aux ouvriers saint-simoniens qui a pu célébrer Jacques Rancière dans la nuit des prolétaires. Ça commence là, quoi. Déjà au 19e siècle, au début du 19e siècle, on a déjà cette affaire-là. Maintenant, si je prends un petit peu de recul, parce que j'ai eu l'impression qu'on rejouait le livre de Philippe Urfalino à un moment, là, tout à l'heure, hein, qui a bien montré dans l'invention de la politique culturelle comment il y a eu vraiment un clivage fort à l'époque Malraux entre l'éducation populaire et cette politique culturelle qu'on inventait. On en a eu une rémanence là, à travers les propos. Il me semble que si on prend un peu de recul par rapport à ça, et je serais d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut surtout pas les séparer, tout ça, ça appartient à un même mouvement. Il me semble malgré tout que, bon, en tous les cas, je vous propose qu'on puisse malgré tout distinguer deux changements quand même assez significatifs. Le premier, pour moi, eh bien, c'est l'intervention directe des artistes. Il y a un contact beaucoup plus immédiat, disons. Les artistes ne veulent pas être des médiateurs, ils sont des acteurs de l'éducation artistique de manière directe, en prise, hein, avec les enfants, les adolescents, les adultes, enfin, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que c'est lié, c'est du coup un déplacement, je vais dire comme ça, un déplacement ou un approfondissement, si vous préférez, de l'enjeu démocratique. Il me semble qu'il se déplace quand on regarde les choses sous cet angle-là, parce que du coup, on en arrive à l'idée qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est de permettre l'accès de tous à une véritable expérience esthétique. Et j'insiste pour ma part beaucoup là-dessus. C'est un point que nous avons vraiment en commun dans le collectif pour l'éducation par l'art, dont je suis l'un des membres et dont je vois quelques représentants dans la salle. Notre conviction, c'est quand même d'abord fondamentalement celle-là. C'est l'enjeu majeur, il est là. Alors, j'ai entendu la formule à plusieurs reprises et j'ai envie de dire, eh ben là, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Je pense que c'est loin d'être donné, cette affaire-là, pour de multiples raisons. Je vous laisse peut-être vous rappeler les propos qui ont été échangés pour les greffer sur les miens. Deuxième idée un peu générale, c'est qu'à partir de là, moi, je propose une périodisation, d'une certaine manière, de l'histoire, disons, de la démocratisation culturelle, hein, bon, très, très brièvement et un peu à la serpe. Moi, je pense qu'il y a 3 étapes, ou plutôt 3 strates. Ce serait plus juste de dire des strates, parce qu'elles sont loin d'être toutes mises en place, achevées, terminées, largement en cours, hein. La première, bon, bien sûr, c'est évident, c'est celle de l'accès au patrimoine de l'art et de la culture. C'est loin d'être gagné. On a vu qu'il y a des fossés, mais enfin, ça reste une exigence démocratique de fond. La deuxième étape, c'est d'accorder à chacun la possibilité d'accéder à des pratiques artistiques de son choix. Et là encore, c'est loin d'être gagné, même si, de toute évidence, quand on regarde les choses avec une certaine objectivité quantifiée, même comme vous le faisiez tout à l'heure, les choses sont assez claires. Et je pense qu'on est engagé dans une troisième étape aujourd'hui. C'est vraiment l'enjeu de ce qui nous réunit, me semble-t-il. Et j'ai senti que circulait ça quand même dans la table ronde précédente, aussi dans celle-ci, peut-être pas toujours sous les mêmes formes. C'est de faire de l'expérience esthétique. Alors, au fond, d'une certaine manière, le cœur est la base d'une éducation refondée. Mais là encore, faut-il dire pourquoi, hein. Moi, je répondrais que ce n'est pas simplement parce que, comme ça, je ne sais pas, les institutions culturelles peuvent s'engager. Bon, c'est bien qu'elles le fassent. Mais j'aurais une réponse de type à la fois politique et anthropologique. Je dirais que la conduite esthétique est une conduite fondamentale, constitutive de notre humanité, et qu'une éducation digne de ce nom ne peut pas se permettre de l'ignorer. Et tant qu'on fera comme si c'était moins important que le reste, on aura forcément une éducation totalement hémiplégique. Et là-dessus, je pense que c'est encore loin d'être gagné. Alors, je voudrais donner une illustration, et ce serait mon troisième point, donc du même coup, hein. Parce qu'il m'arrive, et je ne dois pas être le seul quand même, de me dire quelquefois que le verre est soit à moitié vide, soit à moitié plein. Quand on va par exemple dans un musée, ben, on voit de plus en plus d'adolescents avec leurs enseignants, etc. Mais il y a une photographie qui a circulé sur les réseaux sociaux pas mal il y a quelques mois, où on voit, donc, vous savez, dans un musée, ces énormes poufs circulaires, là, au pied d'un grand chef-d'œuvre. Et puis, il y a une bande d'adolescents qui sont assis en rond. Ils ont tous le nez dans leur smartphone, hein, donc, et ne regardent en rien donc, la toile. Alors, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et de grave, hein, que cette affaire-là, parce que ça veut dire, au fond, que nous n'avons pas été encore capables, pour beaucoup de ceux à qui on s'adresse, de restaurer la continuité entre leur expérience et cette expérience culturelle, artistique, esthétique, à laquelle on veut qu'ils accèdent. Et par ailleurs, et je suis peut-être désolé de le dire comme ça, parce que ça peut choquer éventuellement, mais je ne le crois pas, enfin je le dis quand même, moi quand j'entends, des éléments de langage, je vais les appeler comme ça, hein, qui amènent à parler de public éloigné, de public empêché. Je pense que tous ces mots-là ne font que creuser un peu plus le fossé qu'on dénonce. Alors, s'ils sont éloignés, s'ils sont empêchés, si on part de ce principe-là, à mon avis, on n'a pas la moindre chance de les voir revenir. Hein, donc, au contraire même, au contraire, ce fossé se creuse de plus en plus. Alors, ça, moi, je l'ai découvert, une petite confidence rapide, pour ne pas être trop long. Pratiquement, au début de ma carrière d'enseignant, j'ai commencé à enseigner à l'université dans une école normale, rurale, Franche-Comté, vraiment la France profonde. Et moi, j'étais parisien, philosophe, spécialisé en philosophie de l'art, plutôt. Donc, je parlais de ce que j'aimais, de ce que je connaissais. Et je voyais bien qu'on me regardait avec des yeux ronds. Et puis, un jour, quelqu'un m'a dit, c'était en formation continue, d'ailleurs, c'était donc des instituteurs déjà en poste, quelqu'un me dit, mais vous savez ce que vous racontez là ? C'est exactement ce que je ressens, moi, quand je me promène dans ma forêt. Eh bien, il faut partir de là. Il faut partir de l'idée que chacun a une expérience qui est authentique, et que si on sait la comprendre, l'écouter et l'intégrer, on peut le mener très, très, très loin. Mais pas en partant du fossé, en partant au contraire du fait que, pour le dire en un langage un peu plus philosophique, que au fond le sens esthétique, c'est ça le sens commun. C'est ce que nous avons en partage. Donc tous les artistes vous diront que sur le plan artistique, sur le plan esthétique, la différence entre l'enfant et l'adulte s'efface considérablement. C'est un terrain où on dit même que l'égalité n'est pas très très loin. Alors, je voudrais terminer de deux façons. La première, en vous donnant un petit exemple d'une expérience esthétique relativement simple et un peu atypique. Je l'ai choisie volontairement parce qu'elle est atypique. Elle n'est pas sur le terrain, disons, de l'art habituel. Hein. C'est dommage que Laure Adler soit partie, parce que c'est une émission de radio dont je voulais parler. C'est avec des collégiens d'un collège donc de Montpellier, ceux qui connaissent Montpellier et qui connaissent le quartier de la Payade notamment, savent que c'est un quartier difficile où il y a bon, une population, donc, même beaucoup de primo-arrivants, hein, donc, gitans, etc. Et ils ont bénéficié, vous parliez d'une étude qualitative tout à l'heure, ben justement d'une commande de mon laboratoire. Donc on a suivi cette expérience pendant 4 années. Et entre autres choses, et je voulais prendre cet exemple-là, une compagnie théâtrale a créé avec eux une émission de radio en direct. Et j'ai encore cette image de ces enfants, de ces collégiens. Ils étaient en quatrième, je crois, oui, en quatrième ou en troisième. Et tous réunis autour d'une table ronde, les écouteurs, le micro, être extrêmement attentif à ce que l'autre va dire parce qu'il y a un accordage absolument nécessaire et qui fait de cette expérience vraiment un lieu d'individuation et de socialisation en même temps, une très très grande richesse, qui en même temps, je m'en suis aperçu dans les entretiens que j'ai eu avec eux après, leur fait prendre conscience aussi que dans toute expérience artistique, il y a un public potentiel. Beaucoup d'enfants me disaient, dans ces émissions-là, on a senti qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là, qui pouvait écouter. Et cette prise de conscience-là me paraît extrêmement forte. Et puis j'ajouterais aussi l'aspect le plus évident hein, de l'expérience esthétique, c'est-à-dire le plaisir sensible, le grain de la voix, le rythme, l'écoute, la découverte de ses propres résonances dans son propre corps, une lecture absolument impeccable, ce qui est assez rare généralement dans ce genre de collège. Alors je voudrais terminer avec simplement un mot au fond, c'est que Si on demande, puisque c'était aussi une question, au fond, quelles sont les conditions et quels sont les obstacles, moi, je dirais que les conditions pour lesquelles, pour que ça ait des chances de marcher, c'est qu'il faut vraiment tout réunir pour qu'il y ait une véritable expérience esthétique, mais partagée. Et quand je dis partagée, je veux dire partagée avec tout le monde. Autant avec les enseignants, on parle toujours de l'effet sur les élèves. Mais fondamentalement, ça agit sur les enseignants. Si les enseignants ne vivent pas la même expérience que leurs élèves, comment voulez-vous qu'il se passe quelque chose? Donc une véritable expérience partagée. Et puis, à mon avis, je dirais que l'obstacle majeur, c'est peut-être cette idée qui est encore dans beaucoup d'esprits, comme quoi, au fond, l'art a un statut mineur. Et on a beau donc le dire, le répéter et faire amende honorable régulièrement, dans le fond du fond, on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont la conviction inverse et qui estiment que ben, ça n'a peut-être pas l'importance qu'on va bien lui accorder. Et tant qu'on n'aura pas changé les esprits de ce point de vue, et là, c'est une mutation anthropologique, hein, pour le coup, prendre conscience que chacun existe dans sa conduite esthétique, tout autant que dans sa conduite cognitive ou prédatrice, si j'ose dire, hein, eh bien, on ne pourra pas, à mon avis, répondre à tous les enjeux que vous avez les uns et les autres soulignés. Voilà, c'était un peu long peut-être. Hein. Merci.
Merci. Merci, merci beaucoup pour votre sensibilité aux mots aussi. Vous savez, effectivement, quand on prononce certains mots, ça nous empêche effectivement de faire un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a quelques années, beaucoup de politiques, de droite comme de gauche, avançaient souvent dans leur discours, il faut qu'on ait des citoyens autonomes et responsables. Ça veut dire que d'emblée, vous considérez qu'ils ne sont ni autonomes ni responsables. Considérons d'abord que le mot citoyen, c'est être autonome et responsable, et travaillons tout de suite là-dessus. Ça permettra d'avancer avec d'aussi jolies métaphores que celle du sac à dos de la Roche-Jagu, qui permet d'être vraiment autonome dans ce que nous faisons. Je trouvais que l'expérience était très belle, mais l'allégorie en soi de votre petit sac à dos est assez merveilleuse.
Alors, moi, je voudrais aussi les remercier parce que quand vous avez parlé de cela, j'ai pensé justement à ce monsieur il y a pas mal d'années qui m'avait dit dans ma forêt, voilà ce que je ressens.
Merci. Alors je retiens aussi hein, que tous nous avons rappelé dans la lignée de M. Malinas et peut-être du président de la République, ça va mieux, mais pas encore assez. Hein. Donc la troisième table ronde est consacrée évidemment aux acteurs publics. Donc je vais appeler...